Bonjour François Dubé, merci d'accepter de répondre à ces quelques questions pour SES ENS. François Dubé, vous êtes professeur de sociologie à l'Université Bordeaux 2, directeur d'études à l'EHESS et chercheur au Centre Émile Durkheim. Et vous êtes auteur, avec Olivier Cousin, Éric Massé et Sandrine Ruiz, d'un livre publié récemment intitulé « Pourquoi moi, l'expérience des discriminations ?». Ce livre est le résultat d'une enquête par entretien sur le vécu des discriminations par des personnes donc susceptibles de l'être, du fait de leur origine, de leur culture, de leur sexe ou de leur sexualité. Donc première question, qu'est-ce que la discrimination selon vous et en quoi elle se différencie de la ségrégation ?
C'est une question en réalité un peu compliquée. Bon, la discrimination est une, la discrimination est une épreuve inéquitable. C'est-à-dire que la discrimination va consister à refuser l'accès à un bien scolaire, immobilier, professionnel, culturel, etc., auquel un individu égal pourrait prétendre, et auquel il n'accède pas parce que on lui reproche d'être ce qu'il est, c'est-à-dire d'être noir, d'être musulman, d'être homosexuel, d'être une femme, etc. Et d'ailleurs, ce caractère inéquitable est très, très précis, puisque c'est la loi qui définit la discrimination, les critères de discrimination. Alors, je vais donner un exemple pédagogique, pardonnez-moi. Si un appartement est mis en location 1000 euros par mois, tous les gens qui ne peuvent pas payer 1000 euros par mois sont victimes d'une inégalité, mais ne sont pas discriminés. Parce qu'ils ne sont pas exclus en fonction de critères tenant à leur identité. Simplement, ils ne peuvent pas payer. Donc, c'est une inégalité sociale, je dirais, banale. Si une personne se présente en disant « je peux payer cet appartement » et le propriétaire dit « ah mais moi, je ne veux pas de noir », il est discriminé. C'est parce qu'il est égal aux autres qu'il est discriminé au nom d'un critère, etc. Donc, ce qui fait que c'est une définition un peu banale, mais que tout le monde comprend. En réalité, on est discriminé quand on vous reproche d'être ce que vous êtes, et que ce que vous êtes est considéré comme un stigmate, d'une certaine manière, ou une incapacité, etc., etc. En général, d'ailleurs, les discriminations sont beaucoup moins brutales que ce que je viens de décrire. Ça se joue de manière plus fine. La ségrégation, c'est la concentration d'inégalités sociales ou d'inégalités tenant des discriminations qui se ressemblent. Par exemple, on peut dire que un établissement scolaire est ségrégué dès lors que les mécanismes de la carte scolaire, du choix des parents, font que d'une certaine façon, tous ceux qui y sont vont se retrouver dans un entre-soi imposé. Alors la ségrégation, ça suppose que vous êtes homogène, mais que ça vous est imposé. Par exemple, on va considérer qu'un grand ensemble populaire en difficulté est ségrégué, mais on ne considérera pas que Neuilly est ségrégué. Or, en réalité, Neuilly est autant ségrégué, sauf que les gens ont voulu aller à Neuilly et que les gens n'ont pas toujours voulu aller dans ce quartier. Donc ça devient des choses un peu compliquées, mais en même temps c'est important de les distinguer parce que les inégalités sociales d'un côté, les inégalités tenant aux ségrégations de l'autre sont au fond des choses différentes et on peut être situé dans un certain espace d'inégalité sociale et discriminé, ou bien situé dans un certain espace d'inégalité sociale et non discriminé. Je prends un exemple. Une femme cadre supérieur peut être en haut, la stratification des inégalités, et dire en tant que femme, je suis discriminée dans mes relations avec mes collègues. Mais elle est quand même en haut, du point de vue des inégalités sociales. Donc, on est dans un espace qui est structuré probablement, mais qui est structuré de manière assez complexe, parce que, sauf quand vous prenez, je dirais, le quartier ultra chic, disons au Pinson Charlot, où vous avez tous les attributs de la non-discrimination, de la fortune, du capital, de la beauté, tout ce que vous voulez, et quand vous êtes à l'opposé, c'est-à-dire où vous avez tout le chômage, la pauvreté, la discrimination, le racisme, etc. Bon, vous êtes dans un ensemble homogène. Mais c'est pas comme ça. La vie sociale, elle est située plutôt entre Neuilly et la cité défavorisée. où vivent quand même 90% des gens qui ne sont ni d'un côté ni de l'autre, et qui eux vivent dans des mondes mixtes, mélangés et structurés de plusieurs manières en réalité.
Voilà. Merci. Alors dans l'enquête que vous avez réalisée avec environ 200 entretiens, ouais. Complétés par 4 groupes d'intervention sociologique, vous êtes intéressé non pas à la description, à la mesure des discriminations objectives, ni à l'explication de leurs mécanismes, mais à l'expérience des discriminations, comment elles sont vécues par ceux qui la subissent, donc des inégalités subjectives, perçues comme justes ou injustes. Alors pourquoi est-ce important pour la connaissance des discriminations de savoir comment elles sont vécues et ressenties par ceux qui la subissent ?
Je vais vous faire une réponse un peu brutale. Une inégalité qui n'est pas vécue comme une injustice, au fond, ce n'est pas un problème. Et il y a des myriades d'inégalités qui ne sont pas vécues comme des injustices. J'ai les yeux bleus, vous avez les yeux verts, ce n'est pas un problème. C'est une différence qui, parce que c'est pas une différence, qui n'est pas une inégalité. Vous avez des inégalités. Grosso modo, on peut dire que l'idée que les gens plus diplômés doivent gagner plus que les gens non diplômés, pour l'essentiel, on pourrait en discuter, mais n'est pas vécue comme une inégalité, dans le monde scolaire en particulier. Je veux dire, le monde scolaire est un monde très étrange de ce point de vue-là, qui attache au diplôme une valeur décisive. Donc les inégalités qui sont pertinentes pour un sociologue, c'est les inégalités qui provoquent des sentiments d'injustice, d'indignation, de révolte, de colère, de souffrance, et qui, dans une certaine mesure, deviennent un problème social. On pourrait d'ailleurs développer plein de paradoxes. Au fond, il y a 100 ans, les inégalités entre les hommes et les femmes étaient bien plus considérables qu'elles le sont aujourd'hui. Et d'une certaine manière, le nombre de femmes en ayant conscience, une conscience critique, je veux dire, et protestant, était incroyablement faible. Aujourd'hui, les femmes sont beaucoup plus égales qu'elles ne l'ont jamais été, et le sentiment d'injustice est beaucoup plus fort. Donc, ce qui compte quand même pour un sociologue, c'est de comprendre qu'il y a une distance entre la mesure statistique et la façon dont les gens vivent des inégalités. Et fort heureusement, toutes les inégalités ne sont pas vécues comme des injustices, autrement on ne vivrait pas.
Voilà. Alors les critères d'inégalité de traitement qui sont à l'origine des discriminations sont très très nombreux. On a des discriminations selon le sexe, l'âge, la race, l'origine, la religion, le handicap, etc. Alors vous, quels critères vous avez retenu dans votre enquête pour étudier ces expériences de discrimination ?
On ne s'est pas compliqué trop la vie. On a fait le cœur de l'enquête sur les discriminations qu'on appelle ethniques, c'est-à-dire la religion, la couleur de la peau, l'origine des parents, etc. On a pris le cas de femmes pour avoir surtout une base de comparaison. Quand même, l'essentiel du livre est plutôt sur les discriminations ethniques, et le cas des minorités sexuelles, donc des homosexuels, hommes et femmes, là aussi pour avoir une base de comparaison. Mais il ne nous apparaissait pas raisonnable. Il y a 18 critères de discrimination définis par la HALDE, enfin par la loi. C'est pas raisonnable de dire on va rentrer les handicaps, le surpoids, enfin bon, je veux dire, ça devient impossible. D'ailleurs, je pense qu'à force d'étendre les critères de discrimination, on risque de les dissoudre, à mon avis. Voilà. Donc c'était plutôt centré sur les minorités, avec deux populations un peu de... pour avoir une base de comparaison.
D'accord. Alors, la première partie du livre, elle est consacrée à l'expérience des discriminations. Et là, vous montrez qu'il existe différents degrés d'intensité dans le ressenti de la discrimination. Et la première figure que vous analysez, c'est l'expérience de discrimination totale, donc une forme de discrimination vécue tellement intense qu'elle va modeler complètement l'identité.
Oui, c'est des choses que l'on connaissait parfaitement bien à travers la littérature noire américaine. C'est-à-dire que vous avez des expériences de discrimination qui constituent l'identité de l'acteur. Bon, c'est-à-dire que, au fond, on a vu ça avec des gens, je pense en particulier le modèle du jeune garçon d'origine étrangère, maghrébine ou africaine, de banlieue, qui n'a pas de boulot, qui a été dans un collège où ça n'a pas marché, auquel la police demande ses papiers, qui a fait un petit séjour en prison, tatatitatata. Bon. Quand vous les interrogez, ils disent « je suis constitué par les discriminations », de la même manière que Richard Wright pouvait écrire dans les années 40, le noir américain est constitué par le racisme. Enfin, je veux dire, rien n'échappe dans son expérience au racisme. Donc là, les gens vous disent, mes amitiés, mes amours, mes goûts, tout est défini par ça. Bon. C'est au fond intellectuellement le plus facile à comprendre. C'est-à-dire que vous avez de la discrimination, plus de l'inégalité sociale, plus tas d'attributs qui font que, bon, on est dans l'expérience totale. Dans la réalité banale, c'est pas aussi simple. Parce que, pour deux choses. D'abord, on n'est pas discriminé tous les jours, à toute heure, à tout moment, à tout propos. Les gens vivent, il faut quand même le rappeler. Le livre est un peu... il est banal. Enfin, les gens vivent. Voilà, ils ont des copains de l'autre côté de la frontière. Ils ont des copains. Les femmes peuvent être dominées, mais elles vivent avec des hommes qu'elles aiment. Enfin, je veux dire, bon, quand même, c'est plus compliqué, d'une part. Et puis surtout, le lien entre la stigmatisation, c'est-à-dire le fait de se voir attribuer une identité négative, et la discrimination, est un lien assez lâche en réalité. Par exemple. Je vais dire des choses très très rapides, très très brutales, mais les femmes qu'on rencontre disent on est discriminé quand on est femme, on ne fait pas la même carrière que les hommes, mais on n'est pas stigmatisé comme femme. Le fait d'être une femme n'est pas vécu comme une humiliation, on nous humilie. Voilà. Bon, il y a des femmes battues, mais enfin, dans l'ensemble, ils disent non, le fait d'être une femme n'a jamais. Bon. Vous prenez le cas des homosexuels, c'est strictement l'inverse. C'est des gens qui vous disent souvent on n'est pas discriminé quand on est homosexuel, en termes de marché du travail, d'accès au logement, etc. En revanche, on se fait insulter. Bon. Et puis vous avez des gens, je vais vous donner des réponses qui peuvent paraître un peu bêtes, mais vous interrogez une jeune femme maghrébine, vous sentez discriminée, elle dit bon non, pourquoi ? Ben je suis une femme, et puis je suis belle. J'ai une femme et je suis belle, donc. Mes frères, par contre, ils sont discriminés. Voilà. Donc, vous avez des expériences, etc. Ce qui fait d'ailleurs que les personnes que l'on rencontre disent toujours deux choses assez troublantes. Ils disent « Je voudrais pas être paranoïaque. » Parce que, au fond, chaque fois que je suis discriminé, je me demande ce qui m'est arrivé. J'en suis pas sûr que j'ai été discriminé. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Il y a des situations évidentes. Et la seconde chose, c'est je voudrais pas être paranoïaque. C'est-à-dire, je ne voudrais pas me laisser définir par les discriminations. Voilà. D'ailleurs, Michel Lamont racontait des choses très comparables avant-hier. Pourquoi c'est comme ça ? Parce qu'au fond, la discrimination, ça procède du fait qu'on vous impute une identité. Vous arrivez, vous êtes un jeune homme qualifié, et on vous dit, ah, mais moi, c'est pas un jeune homme qualifié que je vois, c'est un noir. Alors que vous, vous vivez comme un jeune homme qualifié. Donc, au fond, l'épreuve de la discrimination, c'est une épreuve de se voir attribuer une identité que l'on n'a pas. Et donc, on va se battre pour imposer ce qu'on croit être à ceux qui sont en face. Donc on va avoir des stratégies de conflit, d'humour, d'évitement, enfin de tout un tas de choses.
Voilà, donc vous montrez que c'est non seulement la discrimination, c'est une expérience plurielle, elle est vécue de façon différente, mais il y a une diversité dans les façons de réagir à cette épreuve et une variété dans les stratégies, dans les tactiques pour échapper. Oui. Ne pas souffrir, résister, affronter.
Oui, c'est un livre qui a une partie un peu goffmanienne. De toute façon, l'auteur de Stigmate ne pouvait pas nous être indifférent. Mais d'une certaine façon, la littérature, Goffman, les entretiens qu'on fait, tout ça converge vers l'idée que on développe des stratégies, on ruse, on plaisante, on agresse, on interroge. Et beaucoup de gens vous disent ben, c'est quand même très fatigant, très discriminable, parce que d'une certaine façon, quand vous appartenez à la majorité, le monde est fluide pour vous. Quand vous appartenez à une minorité discriminable ou discriminée, le monde n'est pas si fluide que ça. Il peut toujours vous arriver une histoire. Il peut toujours vous arriver un moment où, crac, on va vous faire des remarques, ou on va vous dire votre dossier est très bon mais on ne vous prend pas. C'est une expérience très 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 pénible. En même temps, c'est une expérience de renforcement du caractère. C'est-à-dire que beaucoup de gens disent, ben ça, on apprend à s'affirmer, à résister, à se battre, etc.
D'accord. Alors, vous intéressez ensuite, dans votre livre, aux conditions et aux positions sociales qui déterminent la manière dont les discriminations sont vécues. Et ce que révèle votre enquête sur ce point, c'est quelque chose d'assez paradoxal. C'est ceux qui sont objectivement les plus discriminés d'après les statistiques ne sont pas nécessairement ceux qui se sentent le plus discriminés. Et donc, voilà, on a une expérience qui ne reflète pas toujours simplement des injustices réelles subies. Alors, comment vous expliquez ce paradoxe ?
C'est d'abord qu'il faut bien comprendre que le sentiment de discrimination est d'autant plus fort qu'on se sent égaux. Bon, si je ne me sens pas égal aux autres, je me sens moins discriminé. Bon. C'est un vieux raisonnement sociologique, Tocqueville l'avait déjà souligné. Bon. Alors, ça produit quoi, ce phénomène ? Ça fait d'abord que les gens qui se vivent comme des immigrés, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas chez eux, qui sont des étrangers, sont plus discriminés que les autres, mais se sentent, dans leur expérience, se sentent moins discriminés. Parce qu'ils disent, je ne suis pas chez moi, je ne suis pas vraiment égal. Le traitement inégalitaire que je subis, au fond, fait partie de la condition normale des immigrés. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bon. En revanche, les enfants des immigrés qu'on appellerait aujourd'hui des minorités, c'est-à-dire qui sont nés en France, qui ont été éduqués en France, que ce soit scolaire en France, alors eux, ils sont d'une hypersensibilité à des discriminations qui sont parfois beaucoup moins fortes que celles que subissent les immigrés. Quand vous interrogez des gens qui se sont arrachés à leurs conditions grâce à leur mérite, à leur travail, etc., en général, le sentiment de discrimination est extrêmement vif, voire à vif. Parce qu'ils vous disent, j'ai franchi toutes les épreuves, j'ai beaucoup de mérite, je suis vraiment l'égal de tous, et paf, ça me revient dans la figure. Alors que ceux qui disent... qui sont en bas de la société, qui sont englués, on a envie de dire, dans les inégalités sociales, dans le chômage, dans la pauvreté, dans les difficultés, dont les collègues de boulot sont aussi des Français, sont aussi des gens qui sont quand même très largement comme eux, ce sont des gens qui vont vous dire, oui, les discriminations, c'est très ennuyeux, mais quand même, le chômage, ça l'est plus. Mais quand même, les mauvaises conditions de travail, ça l'est plus. Donc, bien sûr, tout le monde va se sentir discriminé, mais... paradoxalement, c'est au fond une confirmation de la thèse de Tocqueville. Le sort des Noirs est très supérieur au nord des États-Unis qu'il était au sud, évidemment, mais au nord, les Noirs étaient beaucoup plus révoltés parce qu'ils se considéraient comme des égaux. Donc, ce sont des choses qu'on peut montrer. On peut aussi montrer que les marchés du travail vont jouer un rôle. Quand vous êtes dans un marché du travail très ouvert, tout le monde peut accéder. Mais évidemment, les discriminations sont très fortes parce que vous avez une logique de casting. Vous êtes trois candidats pour un poste, tout le monde peut y aller, et là, les chances d'être discriminé sont très fortes. Si vous êtes dans des marchés du travail fermés, par exemple, vous êtes dans un marché du travail qui est, entre guillemets, racialisé, réservé aux ouvriers d'origine africaine récente, bâtiments et travaux publics, les gens vont vous dire beaucoup moins qu'ils sont discriminés. Parce que paradoxalement, le marché, ce qui les stigmatise, va devenir une ressource d'embauche. Hein, on a les entretiens, par exemple. Les gens vous disent, dans notre monde du bâtiment et des travaux publics, on n'embauchera jamais un manœuvre blanc. Donc c'est le blanc qui est discriminé parce que on préfère les manœuvres noires, ce qui est moralement inacceptable, je presse de dire. Mais pour les individus, ça change tout. Donc il faut quand même qu'on soit très sensible à ces multiples paradoxes parce que autrement on peut se borner à mesurer les discriminations et en déduire ce que les gens en pensent, et ce que les gens en pensent et la manière dont ils les éprouvent sont pas plus ici qu'ailleurs le reflet de leur situation.
Alors merci. Vous comparez aussi l'expérience des discriminations dans deux institutions publiques donc chargées de prendre en charge des personnes, mais qui produisent aussi des inégalités, c'est l'école et l'hôpital. Et là aussi, vous faites un constat assez surprenant, à savoir que les personnes interrogées ont le sentiment d'avoir été discriminées à l'école, mais pas à l'hôpital. Oui. Donc l'école est perçue comme beaucoup plus discriminante. Mmh. Comment vous analysez ?
Alors je voudrais tout de suite vous rassurer. J'explique pas cette différence par le fait que les enseignants seraient d'abominables racistes et les personnels de santé des gens vertueux. Bon, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la manière dont les institutions traitent les individus est profondément contrastée dans deux institutions universalistes, c'est-à-dire dans deux institutions qui, par principe, ne discriminent pas. Bon. On peut dire que l'hôpital, je vais très vite sur l'hôpital, est une institution qui individualise les gens. C'est-à-dire, quand vous arrivez à l'hôpital, vous devenez un cas, vous devenez un individu. Et vous êtes traité comme un individu. Pas forcément bien traité, mais comme un individu. Et vos identités culturelles ou sexuelles ne sont qu'une variable parmi bien d'autres identités, et toujours individualisées. Par exemple, je suis musulman, je veux manger halal, mais j'ai du diabète. Et j'ai un problème cardiaque. Et voilà. Donc, le fait de manger halal, c'est pas franchement une variable discriminante. Bon, si je peux me permettre. Et en même temps, il y a l'idée que l'hôpital doit répondre à ces demandes. Par exemple, les personnels hospitaliers qu'on rencontre vous disent quand une femme musulmane ne veut pas être auscultée par un homme, ça nous embête, ça nous complique la vie, on n'aime pas ça. Mais il n'est pas question de lui imposer un examen par un homme. Parce que la priorité, c'est l'individu. Mmh. Voilà. D'ailleurs, l'examen serait mauvais. C'est pas possible. Bon. L'école a un fonctionnement tout à fait différent. L'école est une machine, comme l'ont bien expliqué les sociologues, est une machine qui trie les individus en fonction d'un critère objectif qui est leur résultat scolaire. Et au bout d'un certain moment, vous avez des regroupements d'individus en fonction de leurs résultats scolaires. Les très bons dans ce lycée en S, les très mauvais dans cet établissement ailleurs. Bon. Et comme vous avez, à partir de là, des modes de regroupement qui vont se faire sur la base de la carte scolaire, de l'origine sociale des élèves, etc. Enfin, tout enseignant comprend bien ça. Au bout d'un moment, vous n'avez plus que des garçons noirs dans cette filière, que des garçons arabes dans celle-là, que des filles dans celle-là, etc., etc. Sans que personne l'ait voulu. J'insiste bien, c'est un mécanisme purement objectif. Ça ne suppose pas que les profs aient un préjugé racial. Le problème, c'est qu'il faut que les élèves, eux, expliquent ce qui leur arrive. Et les élèves se disent, c'est quand même bizarre. Notre classe, elle est quand même bizarre. La mauvaise troisième, elle est quand même nettement plus bronzée que la meilleure troisième ou la troisième européenne. C'est quand même bizarre. Bon. Ce qui ne veut pas dire, j'insiste bien, que les profs ont choisi ça, mais le résultat, c'est celui-là. Et donc, les élèves et leurs parents, pour interpréter ce résultat, mobilisent tous les incidents de la vie scolaire pour dire ces incidents sont bien la preuve que ça n'est pas un mécanisme, mais que c'est le produit d'une volonté. Et donc, les élèves disent, c'est 10 fois cette formule, c'est fait exprès. Ils l'ont fait exprès. On s'en est pas rendu compte, mais ils l'ont fait exprès. Et donc, et d'ailleurs, le prof, un jour, il a dit, et d'ailleurs, un jour, on a vu, et d'ailleurs, etc., etc. Donc, tout va devenir une pièce à charge contre les enseignants. Les élèves savent en plus que cette interprétation est tétanisante pour les enseignants. C'est-à-dire que l'enseignant, s'il s'entend dire « Monsieur, vous êtes raciste », c'est une insulte insupportable. Et les élèves le savent, il ne faut pas se raconter de blagues. Bon. Et donc, au fond, même si l'école produit des inégalités de type ethno-racial, mais qui ne sont pas voulues comme telles, au bout du compte, elles sont interprétées comme le produit d'une volonté. Il y a une dernière différence, quand même, c'est que l'école ne sait pas quoi faire des différences ethno-culturelles. Chaque prof est seul dans sa classe et se débrouille comme il peut. L'hôpital a des politiques. L'hôpital a des ethnologues, des cultures. L'hôpital gère ça. L'école est plutôt dans le style « ça ne devrait pas exister ». Voilà. Et donc, le résultat, c'est que les gens vous disent... alors en plus, l'expérience hospitalière, justement, est très brève. on y passe quelques jours, quelques semaines. L'école, on y passe 15 ans. Donc, c'est très ennuyeux pour l'école en France, c'est qu'aujourd'hui, il s'installe chez chez ses publics l'idée que, d'une certaine manière, l'école est une machine qui a pour vocation cachée de les exclure. Quand vous interrogez de très bons élèves issus d'immigration, ils vous disent tous « moi, je n'ai jamais été discriminé ». Le fait d'être un bon élève me protège automatiquement de ce genre d'affaires. Voilà. Donc, peut-être qu'il faudrait que l'école s'interroge là-dessus et se dise que c'est un problème qu'elle doit prendre en charge plutôt que de dire un peu comme les enfants, c'est pas ma faute. J'ai pour rien. Voilà.
Alors, peut-être rapidement, dans les derniers chapitres, vous opposez le monde des médias et des industries culturelles au monde politique. Oui. Donc, ces deux institutions qui ont tenté de s'ouvrir à la diversité, de mieux représenter les minorités et les femmes. En s'appuyant notamment sur des dispositifs législatifs, et vous montrer que le marché des médias, en fait, est aujourd'hui beaucoup plus ouvert aux minorités, alors que le monde politique reste assez fermé, assez peu accessible aux femmes, malgré la loi sur la parité.
C'est un peu comme... il est encore plus fermé aux minorités, le monde politique.
Et aux minorités.
C'est un peu comme l'hôpital et l'école. Moi, je ne crois pas que ça veut dire que le monde politique serait particulièrement machiste, raciste, et que le monde des médias serait particulièrement ouvert. Je crois simplement que le monde des médias a une logique d'adaptation à un public. Le monde des médias ne peut pas ne pas tenir compte de la nature des publics auxquels il s'adresse. Je prends un exemple très simple. Un feuilleton qui passe sur la 3, qui s'appelle Plus belle la vie, a fait un triomphe parce qu'on y a vu la société. On y a mis des immigrés, des homosexuels, on y a fait rentrer, etc. Parce qu'on observait que le feuilleton ou la série qui se passe où il n'y a que des cadres moyens, blancs, etc., etc., il y a toute une partie de la société qui s'y reconnaissait. Donc, la logique des médias, c'est une logique, c'est l'aspect vertueux du marché, au fond. Alors, le marché n'est pas toujours diabolique. Au fond, si le public est différent, il faut que je lui donne des différences. Il y a aussi l'impact considérable des médias américains, des séries américaines, qui sont quand même... qui ne sont pas le reflet de l'Amérique, mais qui sont le reflet d'une capacité d'intégrer des différences et des minorités tout à fait extraordinaire. Le monde de la politique... Il y a du machisme, il y a tout un tas de choses qui ne sont pas forcément sympathiques. Mais tout simplement, c'est un monde dans lequel les challengers ne rentrent pas. C'est un monde qui est tenu, qui est verrouillé, dans lequel les élus ont des réseaux, contrôlent des clientèles, etc., etc. Et c'est très difficile, même s'il y a eu un sensible progrès quand même à la dernière élection sur les femmes, c'est très difficile d'y faire entrer des nouveaux venus. Autrement dit, sur les médias, le jeu est ouvert, et donc ça rentre. Dans le monde politique, le jeu est fermé, parce que vous n'avez pas beaucoup de renouvellement non plus en termes de génération, pas non plus, vous allez dire, c'est quand même un monde incroyablement homogène. Dans certains départements, les élections législatives, les candidats qui se présentent sont tous ceux qui s'étaient présentés la fois d'avant. Voilà. Donc, c'est plutôt le fait que le jeu de chaise musicale est très fermé dans la politique et il est plutôt très ouvert, plus ouvert dans les médias.
D'accord. Voilà. Alors, en conclusion, vous soulignez le lien entre la mise sur agenda des discriminations, leur condamnation, puis du coup cette montée de l'expérience des discriminations. Et la transformation de notre vision du monde social, de nos conceptions de la justice. Donc vous dites que c'est le triomphe de l'égalité des chances qui a remplacé une conception de la justice donc fondée plutôt sur la réduction des inégalités entre classes sociales et donc qui a mis les discriminations au rang d'injustice première.
Oui, ce que j'ai dit n'est pas très compliqué. La question qu'on pourrait se poser, c'est quelqu'un de mon âge peut se dire, c'est étrange, dans les années 70, en France, on ne parle pas de discrimination. Pourtant, il y en a probablement plus qu'aujourd'hui. Les homosexuels sont obligés de se cacher, les femmes sont véritablement considérées comme différentes, on va dire, ou inférieures aux hommes. le racisme est une sorte d'opinion publique relativement acceptée. En fait, je veux dire que on discrimine beaucoup. Pourquoi on n'en parle pas ? Ben, on n'en parle pas parce qu'on a l'idée que les grandes inégalités, c'est les inégalités socio-économiques, c'est l'exploitation, c'est le travail, c'est la classe ouvrière, c'est la CGT, le Parti communiste, etc. Bon. Et donc, quand vous raisonnez de cette manière-là, vous ne voyez pas les autres inégalités. Et d'une certaine manière, elles ne se voient pas elles-mêmes. Enfin, les gens les vivent durement, mais n'acceptent pas la politique. Quand vous entrez dans un nouveau modèle de justice, tout simplement parce que l'autre s'efface petit à petit, la France se désindustrialise, État-providence est de moins en moins solide, etc. Les gens vous disent, au fond, la grande injustice, c'est que j'ai pas une équité, une égalité des chances avec les autres. Alors l'école a joué un rôle décisif, là-dessus d'ailleurs, et un rôle positif. Puisque pendant très longtemps, vous aviez une école qui était très peu critiquée, mais qui était très ségrégative. Les enfants faisaient des études très particulières en fonction de leur naissance. Quand on a ouvert le jeu, on a eu un sentiment d'inégalité scolaire qui a explosé, alors que l'école était moins inégalitaire. Et donc, le progrès de l'égalité, d'un côté, et le déclin des vieilles structurations de classe font que les discriminations deviennent essentielles. Alors moi, je suis très prudent là-dessus, parce que, de même que c'était pas très acceptable de ne pas voir les discriminations sous prétexte qu'il n'y avait que des inégalités de classe, il ne faudrait pas oublier. Et c'est d'ailleurs ce que rappellent les individus qu'on rencontre, qui sont pas des idéologues des mouvements de discrimination. Ils disent, d'accord, je suis discriminé, mais très souvent, ce qui me gâche la vie, c'est comme les autres. C'est les conditions de travail, l'absence d'emploi, le transport, le logement, etc.
Des inégalités
voilà.
Réelles.
Mais réelles, elles sont toutes réelles, mais structurelles, on va dire. Mmh. Voilà, des inégalités qui sont communes à des gens de votre groupe et à des gens d'autres groupes. Donc je crois qu'il faut réfléchir là-dessus pour ne pas, passer de Caribe en Silla, c'est-à-dire pour ne pas passer d'un modèle qui était totalement aveugle aux discriminations à un modèle, d'ailleurs que les gens qu'on a rencontrés ne veulent pas, à un modèle qui ne serait que centré sur les discriminations. Et on voit d'ailleurs que les gens tiennent beaucoup à ça parce qu'ils vous disent « mais moi, je ne suis pas très chaud pour les discriminations positives parce que je suis fondamentalement égal et que je ne veux pas être humilié par une... » Voilà. Donc, il faut faire très attention. Au fond, le projet de ce livre, c'était de dire « nous avons aujourd'hui des discours, des choses très importantes sur les discriminations qui se tiennent dans les colloques de sociologie ou de philosophie ou dans les tribunes des journaux, mais quand on va voir les gens, ils sont un peu plus compliqués. »
Alors, toute dernière question, à la fin du livre, vous posez le problème de la fraternité dans ce qui fait de nous des semblables dans une société, des principes communs, oui, comme vous disiez, qui nous relient au-delà de nos différences. Alors, il y a une sorte de tension entre, d'un côté, la reconnaissance des différences dans des sociétés pluralistes, les droits des minorités, la protection des cultures contre les dominations, et de l'autre, la nécessité de vivre ensemble, d'être solidaire, la communalité sans...
Voilà, oui, donc, mais c'est ça un peu le thème de ce livre, c'est qu'au fond... on est discriminé parce qu'on a une identité jugée négative. Donc les gens disent « je veux que mon identité soit reconnue comme positive bon. ». Mais au fond, le problème que ça pose, enfin moi évidemment je suis favorable à ça, mais le problème que ça pose, c'est que les groupes majoritaires se sentent menacés. Autrement dit, tant que les gens demandent l'égalité contre les discriminations, en général, leurs revendications sont bien avalées. Pose pas de problème. Quand ils demandent de la reconnaissance de leur singularité, de leur différence, en plus de l'égalité, là ça coince. Et ça coince parce que ça pose au groupe majoritaire la question de sa propre identité. Bon. Beaucoup de gens vous disent « moi j'ai pas tellement de problèmes dans la vie sociale d'immigrés, par exemple de gens d'origine étrangère, mais quand j'ouvre la télé je me rends compte que je suis un problème pour la France. » Vous voyez ? J'ai pas tellement de problèmes à l'école, mais je suis un problème pour l'école. Bon, moi à l'école, ce que je demande, c'est qu'il n'y ait pas une alternative au porc. C'est tout ce que je demande. Bon, voilà, que je puisse manger autre chose que du porc. Parce que mes interdits alimentaires, etc. Et je me rends compte qu'il y a un débat formidable qui va s'ouvrir sur faut-il. Voilà. En fait, ce débat, c'est pas le mien, vous dit la personne. Ce débat, c'est celui des des majoritaires. Et donc, je crois qu'il faut aujourd'hui s'interroger pas simplement sur l'égalité, mais aussi sur ce que j'appelle la fraternité, mais juste pour jouer avec les mots liberté, égalité, fraternité, c'est-à-dire sur le fait qu'il faut que nous soyons capables, pour accepter les différences, de savoir ce qui nous rassemble. Voilà. Et ça, c'est probablement un enjeu, je crois, aujourd'hui essentiel. Alors, la question avait été posée par le gouvernement de Nicolas Sarkozy, mais d'une manière évidemment hostile. C'est-à-dire, on fait une commission, je ne sais pas quoi, un débat sur la nationalité qui consiste surtout à dire « Vous n'appartenez pas à la nationalité ». Mais la question n'est pas absurde. La question n'est pas absurde. Voilà. La question n'est pas absurde de dire « Bon, qu'est-ce qui fait qu'on peut vivre ensemble tout en étant différents, etc. etc. » Et je trouve que la majorité des personnes discriminées posent cette question bien plus paisiblement que les majorités, que ça énerve beaucoup. Voilà.
Merci beaucoup, Monsieur Dubé, d'avoir accepté de répondre à ces questions.